Alors, moi je ne vais pas trop parler de ça puisque j'ai choisi dans ma carrière de ne travailler que dans des entreprises non commerciales. Alors mon rapport à ce genre de questions est quand même très limité, je suis loin d'être un expert, mais il y a ici des gens qui ont fondé des journaux, deux journaux, qui travaillaient avec la publicité, donc avec des annonceurs et qui savent exactement de quoi... Bon, par exemple, Hugues peut répondre, je pense, à cette question et c'est intéressant.
Moi, j'ai créé, entre autres, peut-être certains connaissent, j'ai créé Aveiro Magazine, Lozère Magazine, Cantal Magazine, Viaduc Magazine, Femme d'ici, Destination Grand Sud, Le Rue Noir et puis d'autres magazines. Bon, ce que je peux dire, c'est que un journaliste est toujours payé beaucoup moins qu'un commercial. C'est-à-dire que dans mon entreprise, j'étais patron, donc je peux en parler, et puis je peux m'auto-critiquer, hein, parce que dans le bouquin que j'ai écrit, nous sommes responsables de ce qui arrive aujourd'hui, hein, et je suis le premier responsable. Je sais très bien qu'effectivement la presse est un business, puisque j'ai gagné beaucoup d'argent et j'en ai perdu beaucoup. J'ai gagné beaucoup d'argent, entre autres, sur Viaduc Magazine, puisque quand j'ai eu cette idée, on tirait à 80 000 exemplaires. On vendait à 80 000 exemplaires. Donc c'est clair que ça a bien marché. Pour répondre à votre question, le journaliste est le plus mal payé. Et c'est ça qui est terrible. Moi, à l'époque, j'avais 8 journalistes. Et j'avais une quinzaine de pigistes. Donc de gens payés à la tâche. Et donc Par contre, le commercial est très bien payé. Et quand j'ai créé Aveiro Magazine, on avait à peu près 4000 abonnés. On avait 4000 abonnés et on avait à peu près 4 à 6000 gens qui achetaient le magazine parce qu'il plaisait. Donc, quasiment le rapport, c'était 80% de lecteurs. Et là, vous êtes libre. Parce que c'est les lecteurs qui vous achètent et qui vous payent. Et puis, au fur et à mesure du temps, quand j'avais fait l'économie de ce magazine, tous les mecs, tous les spécialistes disaient, mais en pub tu marcheras jamais, en Aveyron t'imagines, c'est pas possible, etc. Par contre, au bout de 2-3 ans, parce qu'il y avait des lecteurs et parce qu'il y avait une vraie dynamique de lectorat, c'est la pub qui a pris le pouvoir. Et petit à petit, ça s'est inversé. C'est-à-dire qu'on est passé, on a diminué au niveau des lecteurs et on a augmenté au niveau de la pub. Ce qui fait qu'on est passé quasiment de 80% de revenus par les lecteurs et réciproque. Par contre, j'avais un commercial qui était extraordinaire. C'est un ami, on a joué au foot ensemble, on est de l'Aveyron. Il était payé mieux que moi. C'est-à-dire qu'il était payé entre 4000 et 6000 euros. Moi. Pourquoi ? Parce qu'il rapportait, entre 200 et 400 000 euros. Donc, à un moment donné, le rapport, il est là. Il a été là pendant, je dirais, les années où le business marchait. On a fait des bons coups. Hein. C'est très clair. Et quand j'ai lancé Viaduc Magazine, c'est clair qu'on a eu... Ça a bien marché. Comme j'étais dans un autre état d'esprit aussi, plus coopératif, que capitaliste, c'est aussi pour ça que... Mais par contre...
Mais justement, excusez-moi, je vous coupe, mais vous étiez le patron, mais qui vous empêchait de répartir la masse financière, la masse salariale? Vous dites que les journalistes étaient les plus mal payés.
Mais parce que...
Pourquoi?
Je suis tout à fait d'accord. Hein. C'est parce que c'était la logique aussi. Bon, ils étaient mieux payés qu'ailleurs. Mais là, à un moment donné, dans la concurrence, on se situe sur le marché. Et je suis d'accord avec vous, j'étais payé moins bien que le commercial. C'est-à-dire que moi, c'était très clair, en plus je le dis dans le bouquin, j'étais payé 3000 euros, ce qui était très bien. Mais j'étais payé 3000 euros, le commercial était payé 5000 euros. C'est aussi, les concurrents du commercial, par exemple, le commercial, il avait travaillé à Roquefort. Il avait travaillé, c'était qui? On essayait de me le piquer. On est sur un marché concurrentiel, on est sur du business. Et c'est là qu'effectivement, j'entends ce que vous dites, mais c'est pas nous qui décidons. Parce qu'il partait, moi je l'ai piqué à Roquefort, enfin, je l'ai pas piqué à 2000 euros ou à 3000 euros comme un journaliste. Voilà. alors que d'autres journalistes qui sont venus effectivement de centre-presse ou d'ailleurs ont été mieux payés chez moi.
Moi, j'aimerais vous préciser le rôle commercial dans ce genre d'entreprise.
Alors, il y a deux types. Alors, il y a deux types de commerciaux. Il y a les commerciaux qui vendent, qui mettent chez les marchands de journaux, hein, qui font qu'ils soient mieux placés. Ça, c'est le commercial diffusion. Et il y a le commercial qui ramène de la publicité. Donc, qui vend de la publicité auprès d'annonceurs. Et ce qu'il disait tout à l'heure par rapport à l'automobile, par exemple, c'est évident qu'on va prendre des sujets d'automobile parce que, pas seulement parce que ça intéresse les lecteurs, mais parce que derrière, il va y avoir de la publicité. Donc, on est dans une logique complètement mercantile.
Je dernier mot, c'est concernant votre conférence que j'ai moyennement appréciée, je vais vous dire franchement. J'ai trouvé que, comment dire, que vous avez. D'abord, je ne sais toujours pas qui vous êtes, et je ne sais toujours pas quelle est la substance de votre radio. Vous avez fait le tour, mais sans dire quelle était cette substance. Et vous avez parlé, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de clichés dans votre exposé, notamment quand vous parlez de la presse dominante par rapport à la vôtre. Et je me demande si vous voulez, d'une part, comment vous vivez, puisque vous dites que ça n'est pas commercial, quels sont les financements de votre radio. Et ensuite, j'étais en train de chercher ce que je voulais vous dire et j'ai oublié.
Mais ça va vous revenir.
Ça va
si vous voulez, je peux répondre déjà à la première partie.
Et voilà, c'est ça. C'est que vous avez prêché le pour et le. Enfin, la chose est son contraire. C'est-à-dire que vous avez parlé des journalistes dans l'ensemble, de cette fameuse presse qui est dominante, et vous avez justifié toutes les compromissions et les bassesses que peuvent avoir les journalistes. Je pense qu'il n'y a pas. Le journaliste, il y a des catégories de journalistes, ou alors peut-être considérez-vous que les gens qui sont chez Gala ou qui font de la presse People sont des journalistes. J'entendais Gary qui disait que non, pour moi le journaliste, c'est le journaliste d'investigation.
Non.
Oui.
Ben non.
Comment ça?
Non, ben non.
Je crois
mais heureusement que non.
Oh. Quand vous dites qu'il doit bouffer.
Ben non, non.
Je suis d'accord, moi aussi, j'ai fait la même chose pour gagner mon salaire et nourrir ma famille. Mais quand même, puisqu'on parle un peu de. La philosophie du journalisme, le journaliste, c'est une responsabilité individuelle et non pas collective, et c'est quelqu'un qui, informé, s'est élevé. Bon, et dans la presse locale et dans la plupart des radios dont on parle, moi je vois pas d'articles qui élèvent l'individu.
Eh oui, hélas.
Et vous parliez de Pascal, mais c'est surtout la Boétie qu'il faudrait véritablement. Cité avec le discours sur la servitude volontaire.
Mais donc j'ai pas assez parlé de ma radio, non, parce que c'était pas l'objet quand même de dire ce qu'était ma radio, c'était pas la pub d'RTR, on est d'accord. Je suis pas là pour ça, j'ai dit c'est une radio locale, associative, de proximité, qui vit sur les subsides publics, puisqu'il y a un fonds de soutien à l'expression radiophonique qui a été voté par la loi de 1982, la loi Filiou, qui est donnée à toutes les radios qui sont déclarées par le CSA. Donc on est déclaré au CSA, nous avons droit à ce subside, comme les 580 et quelques autres radios dont nous faisons partie. Les radios, vous voyez, je ne rentre pas dans le détail, parce que c'est un peu pénible aussi pour tout le monde, peut-être, de les arcanes, catégorie A, B, C. Il faut savoir qu'on est tous catégorisés. Donc nous, on est en catégorie A, par exemple, et ça ne veut rien dire du tout. Donc je préfère dire radio associative, non commerciale, avec un contenu généraliste. Donc généraliste, cela signifie que l'on est en capacité de traiter de tous les sujets qui sont présents sur le territoire que l'on couvre. Et c'est ce qu'on fait, on essaye de traiter de tous les sujets. Hormis, c'est vrai, les sujets économiques et politiques, on y touche peu. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas spécialiste et nous n'avons pas de spécialiste dans ce domaine-là. Et justement, on veut éviter de faire des grosses bourdes et des grosses fautes dans ce domaine-là. Voyez. Donc, j'avais pas envie de trop de m'étaler. Alors, tous les journalistes, non. Mais il y a une presse dominante faite par les dominés. Oui, bien sûr. Il y a des dominants et des dominés. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Et moi, ça ne me pose pas de problème. Ben, la presse dominante, je vais vous expliquer, dans le secteur de la radio, c'est celle qui va couvrir l'ensemble du territoire. Moi, je peux pas. J'ai pas les moyens. Elle domine, donc, la couverture totale du Radio France couvre l'ensemble de la France.
Est un média qui couvre effectivement nationalement, et c'est un, et pourtant ce sont des journalistes de qualité avec une substance de qualité.
Lesquels, pardon?
Mediapart, par exemple, pour le situer.
C'est un site, hein. C'est un site, hein. On est d'accord. C'est vrai qu'on a peu.
On parle de journalisme.
Oui, oui, oui. Non, mais là, vous me disiez dominant, dominé. Je vous explique un petit peu pourquoi et qu'est-ce que ça veut dire dans mon vocabulaire, mais pas que dans le mien, dans ceux qui sont dans ce secteur-là. Dominant et dominé parce qu'on est dominé. On est dominé de façon économique, on est dominé techniquement, c'est tout. C'est un constat. Je peux le déplorer d'une certaine manière, mais en même temps, je ne le déplore pas. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas d'équilibre. Voilà, moi, je ne suis pas contre une certaine catégorie de la presse. Encore une fois, la pluralité, c'est très important, des titres et des opinions. Donc, je n'irai pas sur ce terrain-là. Par contre, il y a de très bons journalistes d'investigation à Mediapart, oui, certes, mais combien on paye pour avoir accès à l'information? Non, mais voilà, c'est bien une marchandise. Donc, on est aussi dans une logique... Oui, oui, non, mais... Ah, mais j'ai pas dit le contraire, hein. Mais à un moment donné, si vous voulez, ça a bien un coût. Il va bien falloir payer ces journalistes. Et je ne fais pas d'amalgame, je sais très bien que même à TF1, comme on me le disait justement tout à l'heure en discutant, oui, et je l'ai dit d'ailleurs à un moment donné, je dis à TF1, même à TF1, vous trouverez quelques informations intéressantes. Quelques informations, ça voulait dire, il peut y avoir effectivement de temps en temps. Mais ce n'est pas la règle, voilà, parce que ce n'est pas leur intérêt, tout simplement. Et il y avait la deuxième partie de la question, pardon, que j'ai éludé ou que
comment
j'ai
tu vis?
Pardon.
Comment tu vis la question?
Ah oui, il y a comment on vit, donc c'était ça. Voilà. Donc on est libre. Et oui, on est libre. Ça, on est libre. C'est-à-dire, je ne suis pas dépendant de la publicité, d'aucun annonceur. Mon donneur d'ordre n'est pas ni gouvernemental, donc je ne suis pas dans le service public, hein. Et je ne dépends pas d'un pouvoir de, je sais pas, d'une entreprise ou comme Bolloré. Vous savez bien que Bolloré est un groupe ou le groupe Lagardère qui possède Europe 1, etc. Non, je ne dépends pas de ces gens-là. Je suis associatif. Ça veut dire qu'il y a un conseil d'administration et que la loi me permet simplement d'avoir ces subsides-là. Le reste, ben, je vais le chercher effectivement dans la constitution de dossiers, parce qu'on fait beaucoup de dossiers. Vous savez qu'il y a de l'argent à l'Europe, hein, notamment, ou dans quelques fondations privées. Donc oui, on va monter des dossiers sur des projets qui sont pour nous des émissions, des programmes particuliers, et on répond à cet appel d'offres. Et si on gagne, si notre dossier est retenu, eh bien on peut avoir aussi ces subsides-là. Mais la moitié de notre budget chaque année, hein, qui est donc de 110 000 euros à peu près, hein, trois personnes à temps plein, et le reste ce sont des bénévoles et donc des citoyens qui viennent comme ça parce qu'ils ont envie de faire de la radio. Donc la moitié, on doit aller le chercher, oui, oui. Mais pas de publicité, on a décidé, pas de marque, nos logos, pour être au maximum indépendants. D'autant que de toute façon, la loi, même si je voulais mettre un peu de publicité, je n'aurais droit qu'à 20% de mon budget total chaque année. Voilà, je ne pourrais pas dépasser les 20% parce que je suis dans cette catégorie que j'ai choisie. Voilà, tout simplement. Mais je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain, les journalistes avec leurs cartes et leurs... Non, pas du tout. Chacun, effectivement, vous avez raison, a des qualités. Et même si on est dans un média dominant, on peut être intelligent et essayer de faire intelligemment son travail, oui. Mais nous parlons là de masse. On se demande quand même pourquoi on en est arrivé là. Pourquoi on en est là où nous en sommes aujourd'hui? Pourquoi on est dans une société où on ne se parle pas, une société violente? Pourquoi on est dans une société où on se demande toujours comment on va faire pour recréer ce ciment? On est toujours en train de se demander ça. C'est un échec quelque part, pas des journalistes. C'est un échec de nous. Mais les journalistes ont une bonne part, une bonne responsabilité, je pense, puisque les citoyens sont censés, encore une fois, s'informer d'une... Et vous-même, vous le faites. Donc vous choisissez vos médias et vous avez raison. Et il faut le faire, c'est comme ça. Moi, j'encourage effectivement à soutenir Mediapart ou d'autres qui font un vrai journal.
Non, c'est
un vrai journaliste. Non, non, mais par exemple. Non, non, mais.
Oui, Bernard.
Vous avez parlé des largesses de l'État par rapport aux subventions à la PQR. Il manque une information par rapport à votre radio. Est-ce que vous avez une mesure quantitative du nombre d'auditeurs?
Alors, non, on ne l'a pas. Pourquoi?
Parce que oui, 52 000 euros, c'est pas beaucoup.
Ouais.
Il faut mettre un rapport peut-être avec le nombre de gens qui écoutent.
Normalement, non. Ben, normalement, non. Si vous comprenez que plus on veut faire d'audience, plus on veut vendre de journaux, si on a compris la recette, et plus on va faire un journalisme trash, hein, on va faire du journalisme, on va faire de l'information, parce qu'il n'y a pas toujours des journalistes d'ailleurs hein, dans les journaux. Il n'y a pas que des journalistes qui remplissent les journaux ou qui font de la radio. Ben, plus on va aller vers ça, ça veut dire qu'on va aussi inciter les dominants à grossir finalement. On va leur donner de l'argent encore plus pour qu'ils grossissent encore plus et qu'ils répandent encore plus leur idéologie. Alors je demanderais juste qu'on répartisse un peu équitablement, un peu plus équitablement, les aides à la presse en général. C'est ce qu'on demande à la presse en général, pas pour faire disparaître ces aides à quiconque, mais pour que ça soit mieux réparti. Et peu importe, on a été dans le service public, moi j'ai été dans le service public parce que on ne regardait jamais le taux d'audience, ça ne nous intéresse pas. Et dans ma radio, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas savoir le taux d'audience, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi ? C'est quoi qui est intéressant dans le taux d'audience ? Qu'est-ce que c'est qui est intéressant ?
Bah, c'est de parler,
on va t'écouter quand même.
S'il y a trois pèlerins qui écoutent...
Et alors ? Moi, j'ai trois personnes qui m'écoutent et qui tout d'un coup sont devenues peut-être, je sais pas, ont compris quelque chose, voilà, dans leur vie, ou tout d'un coup ont changé quelque chose, mais je préfère ça aux moutons, hein, aux millions de personnes qui regardent TF1 tous les soirs la série Castle. Je préfère, hein. Honnêtement, je préfère. Je pousse le bouchon un peu loin, mais franchement, je préfère.
Ouais. Si vous n'avez jamais de retour critique de votre Audimat, comment vous pouvez savoir qu'ils ne sont pas les mêmes moutons qu'à TF1 ?
Comment je peux le savoir ? Ah, je peux pas le savoir. Je peux pas.
Ça sert à un courrier des lecteurs, ça sert à.
Ouais, ouais. Mais nous, les retours, justement, en médias de proximité, c'est ça qui m'intéresse, c'est que je les ai directement, les retours. Parce que là, c'est deux choses différentes. Vous avez l'audience et les retours. Là, on parlait d'audience. L'audience, c'est une masse qui est calculée par des sondages et qui dit, voilà, il y a tant de parts de marché ou tant de centaines de milliers de personnes qui achètent tel journal, ou etc. D'accord ? Ça, c'est une chose. D'accord ? À TF1, ils savent peu ce que pensent réellement les gens qui les regardent. C'est-à-dire que quand vous avez essayé de rentrer à TF1 pour aller parler à un journaliste ou discuter directement avec quelqu'un qui a fait une information, ça va être très très difficile.
Il y a un mec qui a été embuté de plusieurs l'année dernière, mais à l'idée, je sais plus où, à BFM, et il s'est fait arrêter, etc. Mais bref, je veux dire, une façon de mesurer ce que vous dites, etc., outre tout médiamétrie et compagnie, ça pourrait être une manif devant chez vous. Là, c'est un bon symptôme aussi que peut-être il y a eu un écho, quoi.
Ah, pareil, bien sûr. Voilà,
parce que des manifs devant des grands médias, il y en a déjà eu, enfin, il y en aura d'autres.
Ah ouais, j'ai jamais vu de manif devant TF1 ou France Télévisions, jamais.
Pierre Carles, il a fait pas du papier, il a racheté les droits de chauffage à Canal+, ils ont fait une grande projection sur l'immeuble de Canal+, ça devait être en 97, dans ces eaux-là. Et c'était avant un grand boom de médias alternatifs, surtout narco-libertaires ou d'extrême-gauche, comme on pourrait dire. Et pour diffuser Pas vu, pas pris, la première diffusion publique de Pas vu, pas pris a été sur l'immeuble de Canal+. Les flics sont arrivés à la fin du journal de France.
Ok. Mais en tout cas, ce que je veux vous dire simplement, c'est qu'en médias local, normalement, on connaît ses lecteurs ou ses auditeurs. C'est ça qui m'importe. Bien sûr que si j'en ai trois, c'est peu, et que je ne serais pas très content. Si j'en ai 3000, je préfère en avoir 3000. Et c'est là à peu près le chiffre hein, pour nos radios, puisqu'on a quand même des études, pas pour la mienne en particulier, pour des radios équivalentes en France, des études ont été menées sur des radios de proximité de même taille, avec un même bassin de population. Je couvre avec ma radio 150 000 habitants, donc je fais entre 3000 et 4000 auditeurs par jour. Ensuite, un certain nombre de ces 3000, donc je remplis l'amphithéâtre, hein, c'est ce que je dis tous les jours. Il n'y a pas grand monde qui remplit l'amphithéâtre tous les jours. En tout cas, moi, pour moi, c'est suffisant. Je ne fais pas de publicité, effectivement. Donc, ce n'est que le bouche à oreille qui me fait connaître. C'est tout. Je n'ai pas choisi d'acheter des encarts ou de faire de la pub sur des panneaux. Donc, je suis plutôt satisfait de ça. Et si je peux augmenter, mais bien sûr. Mais je n'irai pas les draguer. Je n'irai pas les chercher par quelques recettes un petit peu de derrière les fagots qui me gêneront, moi, pour mon éthique personnelle et pour le monde que je veux défendre. Je n'irai pas utiliser certains artifices. Donc c'est pour ça que je dis, en rigolant, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est ce que j'ai appris dans le service public au départ. En tous les cas, ça n'intéressait pas le service public, l'audience. C'était la qualité qui intéressait.
Excusez-moi, je voudrais que vous m'expliquiez pourquoi vous avez fait le choix de ne pas traiter ni d'économie ni de politique. Qu'est-ce qui est intéressant ?
Je l'ai dit parce qu'en fait, nous n'en sommes pas capables. Nous n'en sommes pas armés pour ça.
Qu'est-ce qui vous reste pour une radio ? radio associative.
La culture. Ah oui, c'est important quand même, la culture. Tous les faits sociaux. Tous les faits sociaux, donc l'école en particulier. Ça peut rejoindre. Ça peut rejoindre. Mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne fais pas de politique politicienne. Je n'invite pas d'homme politique, je ne fais pas de reportage sur les élections, par exemple, ou de choses comme ça. Je ne couvre pas les élections. Voilà.
Une bibliographie, parce que commencer un jeudi en question par Chomsky, Debord et Bourdieu, c'est quand même vachement à votre honneur pour tout un truc de gauche. Mais par contre, qu'est-ce qui vous empêche que ce soit des outils ou des instruments ou des armes éventuellement à la radio ?
Non, mais on les utilise. Hein. Non, on l'utilise, mais effectivement, je ne veux
pas.
Je fais de la politique, bien sûr que je fais de la politique, mais je ne fais pas de politique politicienne, ce que je veux dire. Voilà. Je ne rentre pas dans un jeu particulier parce que c'est une radio généraliste. En plus, je n'ai pas parlé du volet éducatif parce qu'on a un volet éducatif qui est assez important. Donc ça nous occupe aussi pas mal l'école en particulier.
Non, en parlant de volet éducatif, je ne suis pas ici.
Ouais.
Lycée du Caire, c'est un lycée public comme
privé. Voilà, tout à fait. C'est un lycée privé.
D'accord.
Voilà. Mais la radio n'est plus dans le lycée aujourd'hui. Elle est indépendante. Mais en revanche, effectivement, elle est née dans ce lycée. Ouais. Tout à fait.
Ouais. Oui, moi j'aime bien parler concrètement. Et tout récemment, j'ai rencontré une des rares journalistes d'investigation. J'ai malheureusement oublié son nom. Son prénom, c'est Catherine. Elle investigue dans le domaine de l'agriculture. Elle a écrit un livre qui s'appelle « Le livre noir de l'agriculture française ». Et alors, elle m'a expliqué à quel point elle avait du mal à fourguer ses reportages parce qu'il y avait toujours une incidence publicitaire. On disait, ton reportage, il est extraordinaire. Mais alors, si on le... Elle a fait récemment une enquête sur le vin, tiens. Alors, le Point, le Figaro, Magazine, etc. Il y a des gens, on ne peut jamais diffuser ton reportage parce qu'on va se couper la pub de tous les châteaux, de tous les commerciaux du vin. Voilà. Donc, elle en est là. Et là... 3 ou 4 procès en diffamation, elle prie le ciel de n'en perdre aucun parce que sinon elle est foutue. Bon. Mais sans aller plus loin, j'ai connu à Millau un excellent journaliste. Je ne vais pas être trop précis parce qu'il ne faut pas que je le compromette. Il n'exerce plus, il a eu de tels ennuis qu'il n'exerce plus. Qui était considéré comme vraiment quelqu'un de sérieux sur la place de Millau, qui était vraiment l'informateur de Millau dans un quotidien. Et un jour, il a commis un reportage sur Roquefort. Et ses ennuis ont commencé. Il ne fallait pas attaquer la maison Roquefort.
Société.
Société, des caves. alors moi, j'en mets en parallèle un incident, même pas un incident, que j'ai vécu, moi, à France 3, à Toulouse. Je fais un reportage sur le jambon de Bayonne, où j'explique que le jambon de Bayonne, il n'est pas fabriqué qu'avec des porcs de Bayonne. Loin s'en faut. Et je vois débouler, le lendemain de la diffusion du reportage, le chef de la régie publicitaire qui commence à hurler « On va perdre le budget jambon de Bayonne ». Je n'ai même pas eu à intervenir. Mes collègues l'ont pris par le collègue, ils ont dit « Toi, tu dégages, tu ne viens pas nous faire chier ». Ça, c'est pour marquer la différence entre le service public et la presse business, hein, que je ne critique pas, hein, fondamentalement. Mais c'est pour montrer l'importance quand même de garder une presse service public, à une époque où elle est bien menacée. Et j'enchaîne en disant que j'ai été un curé, moi, du service public. Moi et beaucoup d'autres. C'est-à-dire qu'on y croyait tellement. C'était l'époque de vivre et travailler au pays. Putain, on voulait faire une télé régionale. Et on y croyait. Et on avait des idées. Et on savait ce qu'on voulait. Et on y passait le jour, la nuit. Et aujourd'hui, moi, je suis parti à la retraite. La télé régionale n'existe pas. On a fait de la fausse proximité. On a implanté des bureaux partout, on a tendu un grand filet, un grand chalut à ramasser du news, mais va parler d'un bouquin, va parler d'un spectacle, va parler d'un truc en profondeur. Les reportages, il faut 1 minute, 1 minute 15, et sur 6 minutes, tu parles de tout et de rien du tout. Tu ne mets pas en perspective. Et j'enchaîne encore, parce que je ne vais pas faire une conférence dans la conférence, mais pour moi, une information, ça n'existe pas en tant que telle. Un fait, ça n'existe pas en tant que telle. Une information, ça existe à partir du moment où elle est mise en perspective. Dire qu'il y a eu un accident à Marciac ou ailleurs, ça ne veut rien dire, ça n'a aucun intérêt. Ça a un intérêt si tu le mets en perspective. Et je ne crois pas au journaliste qui n'est pas un journaliste d'investigation. Je ne crois pas à un journaliste qui n'est pas un journaliste engagé. Pour moi, l'état de ce monde est tel qu'un journaliste qui n'est pas engagé, c'est un enfoiré. Si tu vois la misère du monde autour de toi et que tu t'engages pas, t'es carrément un enfoiré. Ça, c'est ma perception à moi. Hein. Bon, on peut ne pas la partager. Simplement, la condition, c'est de ne pas se cacher. Quand moi, je parlais du Larzac, il fallait qu'on sache que j'étais du côté des paysans, évidemment. Quand je parlais de Beauvais, on savait évidemment que j'étais du côté de Beauvais. Mais il y en avait d'autres qui étaient contre et qui le disaient. Et l'équilibre, il se fait comme ça. Mais je ne crois pas au journalisme qui n'est pas engagé, fondamentalement. Et ça, c'est en train de partir. Les journalistes d'aujourd'hui, qui sont très bons techniquement, mais tu vois, ils intervieweraient Hitler et De Gaulle, ça serait 30 secondes pour Hitler et 30 secondes pour De Gaulle. Exactement la même chose. Il n'y a plus de mise en perspective. Allez, je m'arrête parce que là, je...
Oui. Alors, moi, je voudrais poser une question. Je voudrais raconter une petite anecdote plus ou moins personnelle, puisqu'il y a pas mal de journalistes dans la salle qui vont pouvoir me donner leur opinion. Je suis syndicaliste et j'ai été interviewée plusieurs fois par France 3. La dernière fois, alors les premières fois, j'ai beaucoup trop parlé. J'ai parlé jusqu'à ce que j'ai plus rien à dire. Et forcément, j'avais qu'à fermer ma gueule, mais ils ont utilisé les dernières minutes où j'avais plus rien à dire. Dernières secondes, oui. Et donc, on a quand même analysé les choses et essayé de rectifier le tir. Et c'était sur... le fichier base élèves que mon syndicat Sud Éducation appelait à boycotter. France 3 nous avait contactés. En groupe, on avait décidé du message qu'on allait passer le lendemain. Donc j'ai voulu passer ce message-là en expliquant aux journalistes de France 3 que j'avais fait un peu leur boulot de couper. Et voilà. Mais il y avait quelque chose de quand même très symbolique. C'est-à-dire que j'étais dans le local syndical. Et le premier problème a été déjà le lieu, c'est-à-dire qu'ils souhaitaient me filmer à l'extérieur, sous les arbres, parce que c'était joli, etc. Donc j'ai dû batailler pour qu'ils me filment dans mon local syndical, parce que j'étais syndicaliste. Et je n'ai gagné qu'une chose, c'est-à-dire le droit de m'asseoir sur le bureau et d'avoir quand même les affiches syndicales derrière, mais assise sur le bureau. Je n'ai pas eu le droit de m'asseoir derrière le bureau. Et le soir, bon, je vous passe plein de détails, mais le soir, quand l'info est passée, l'inspecteur d'académie, ça s'appelait comme ça à l'époque, lui était interviewé aussi, mais lui, il était assis, bien sûr, derrière son bureau. Parce que quand même, un inspecteur d'académie, c'est quelqu'un de sérieux, donc c'est assis derrière un bureau. Une syndicaliste, c'est quand même pas la même chose. Donc moi, ce qui m'interroge, enfin, la question que je me pose, parce que le journaliste m'a expliqué que le message que je passais, il n'avait pas intéressé les spectateurs, qui savait ce qui intéressait les spectateurs, donc c'est pour ça qu'il aurait aimé que j'exprime différemment. Qu'est-ce qu'il avait dans sa tête? Est-ce que ce journaliste-là, il était juste formaté? Et pour lui, un inspecteur d'académie, c'était derrière, et il avait le cliché d'un syndicaliste? Ou y a-t-il d'autres explications?
C'est moi qui veux d'abord répondre.
Je lance. Hein.
C'est France 3 qui est
décidé. D'abord, primo, je nuancerai ce qu'a dit mon petit camarade Alexandre. Il ne faut jamais assimiler le journaliste à son média. Hein? Il y a 55 000 journalistes en France, il y a 55 000 cas particuliers. Et en aucun cas, on ne doit assimiler le journaliste à son média. Moi, je connais des gens extraordinaires à TF1. Eh oui, TF1 a une sale image. Mais moi, Bernard Nicolas, qui a longtemps travaillé à TF1, avec qui j'ai longtemps travaillé, est un type extraordinaire, un des rares journalistes d'investigation. Il a travaillé à TF1. Donc, en aucun cas, n'assimiler un journaliste à son média. Je ne peux pas raisonner sur le cas que vous dites. Bien sûr que non. Les journalistes de télé ont des contraintes techniques, l'image a de l'importance, mais vous avez raison de dire que vous avez votre mot à dire, et que vous avez raison de résister, que vous avez peut-être dû résister davantage. Moi, j'ai eu des collègues qui ne supportaient pas que les gens n'acceptent pas de témoigner devant la caméra. Vous baladez votre caméra, là, vous chopez quelqu'un, vous allez... Ils prenaient ça pour une agression. Mais moi, je leur disais, mais putain, attends, les gens, ils se sont levés le matin, ils n'avaient pas imaginé qu'ils allaient passer devant la télé, que tout le monde allait les voir. Donc, vous avez la faculté de dire non, absolument. Moi, j'ai vu Rocard, une fois, dire à tous les journalistes qui étaient descendus de Paris dans le Lot, parce qu'il y avait une affaire en Ile-de-France, dire, écoutez, vous m'apprenez une affaire sur laquelle je n'ai pas eu le recul de la réflexion, je ne vous répondrai pas aujourd'hui. Ben, je dis bravo, Rocard. Et vous avez exactement cette faculté, vous êtes libre. Mais le journaliste, il a aussi le droit de batailler avec vous. C'est une question de rapport de force. Mais si vous êtes sûr d'être dans mon bon droit, si vous voulez pas aller sous les arbres, eh bien, n'allez pas sous les arbres. Ils ne vous ont pas obligé, quand même. Ils pas
Sauf les marronniers, parce que si c'était un marronnier sur la rampe, le symbole était fort. Ouais.
Ben moi, je pense que les 30 dernières années, les écoles de journalisme ont fait un mal terrible. Ils ont effectivement formaté tous les journalistes, je dirais, à même pour l'écriture. Hein. Je veux dire qu'à un moment donné, on vous apprend à faire un titre, hein, la titraille, le titre, le sous-titre, etc. Vous êtes formaté. Et la formation des journalistes, ça a été d'un côté une bonne chose parce que ça a professionnalisé le métier, mais d'un autre côté, ça a fait... On est tous pareils. Alors moi, je suis de la vieille génération. Hein. Donc nous, on n'a pas été dans des écoles. Et c'est le terrain qui nous a formés. Mais je pense qu'effectivement, il y a ces a priori. Moi, j'ai bien vu, on dit, un syndicaliste, ben, il faut que tu le mettes dans son milieu. On vous explique ça. On vous explique effectivement qu'un intellectuel, il faut le mettre avec un stylo, ouais, etc. Mais c'est des conneries. Mais c'est des conneries qu'on apprend dans les écoles de journalistes.
Moi,
ce qui est de plus en plus vrai.
Élargirez votre intervention.
Et ce qui est de moins en moins vrai, je finis là. Oui. Ce qui est de moins en moins vrai aujourd'hui, parce que je pense qu'on s'aperçoit que, comme on disait avant, l'objectivité, c'était très important. Comme on disait que la religion du fait, ça faisait partie des écoles de journalistes. Aujourd'hui, on en revient. Et je pense qu'on est en train. On est à la fin d'un cycle, d'un très mauvais cycle. Et je pense. On est aussi à la fin peut-être d'une certaine démocratie et d'une certaine presse. Mais je pense que les choses vont changer. Moi, je suis optimiste malgré cela. Voilà.
Oui, moi, j'ai élargi votre intervention à dire, mais oui, réagissez. C'est au public de s'opposer.
La question, c'est pourquoi
non,
c'est dans la tête du journaliste.
Si j'avais bien fait de réagir. Hein,
vous... Non, mais d'une manière générale, si le public a son mot à dire et il doit le dire. Et il est beaucoup trop passif. Moi, je trouve que le public est beaucoup trop passif vis-à-vis des... Mais passif aussi dans le mauvais sens. Allez, je vais le dire quand même. Moi, j'ai quand même, en travers de la gorge, deux ou trois choses. Hein, j'ai été muté de l'Aveyron... en 1995 pour un reportage de trop avec un député au moment où est arrivé à Toulouse un directeur du même bord que ce député RPR. J'ai été muté, personne n'a bougé, il n'y en a qu'un qui m'a appelé pour me proposer son soutien, c'est José Bové. Tous les autres, tous les syndicats, les associations qui disaient Garrigue, ouais. Il est merveilleux, il nous donne la parole, tatati tatata, il n'y en a pas un qui a bougé. Plus grave, j'ai terminé ma carrière avec un procès en diffamation par un gendarme que j'avais accusé d'être recluse dans une affaire extrêmement grave. Personne n'a bougé. Je me le suis payé tout seul, le procès, en appel et en diffamation. Et en première instance et en appel. Et vous passez des nuages quand vous avez un progrès. Surtout quand vous avez la gendarmerie nationale au cul. Hein. Ça m'aurait bien plu que la Ligue des droits de l'homme, que j'ai alerté de Rodez bouge. Ça m'aurait bien plu que toutes les associations qui crient à la liberté, aux droits de l'homme, etc., se bougent. Mais j'ai été seul. Et généralement, les journalistes... Ben, Denis Robert, il a été bien seul. Hein. Voilà. Et je ne me comparerai pas, dans mon malheur, à ce qu'a vécu Denis Robert. Hein. Alors, c'est lui, c'était... Mais quand les journalistes sont des amis, ils sont bien seuls. Voilà.
Totalement.
Voilà.
Hier, voilà. Avant-hier, j'étais devant la juge d'instruction. Et personne, surtout pas un journaliste, d'ailleurs. Et effectivement, je suis mis en examen pour des propos que je n'ai même pas écrits. Mais il n'y a pas un journaliste qui va bouger. Mais alors... Au public, je ne demande rien. Mais...
Ah, je vous précise que j'ai gagné en première instance un appel. Et je ne regrette pas un mot de ce que j'ai écrit, de ce que j'ai dit dans mon reportage. Hein. Et le gendarme qui était à l'origine de ce procès, qui a bénéficié, entre guillemets, d'un rapport de sa hiérarchie, le vendotant m'a apporté le rapport dans mon boîte à lettres. Le rapport se concluait, ce gendarme est passible de la cour d'assises. Il est indigne de porter l'uniforme. C'est le capitaine qui... Il a été promu trois fois, ici. Et il a été officier ici en Aveyron. Au moment où je prenais ma retraite ici, j'ai dit, mais je suis poursuivi, quoi.
Il y a une question que je voudrais poser, que je me pose depuis des années. Quel est le moteur qui fait bouger des gens comme Bolloré, par exemple, puisque vous venez de le citer, ou Dassault?
Ou Lagardère.
Ou Lagardère. Des gens qui achètent des médias. Est-ce que c'est... le business même du média, les bénéfices qu'on peut en tirer, ou est-ce que c'est la position d'un outil de formatage des esprits?
Ça rejoint la question que posait tout à l'heure.
Mais je suis arrivé en retard, je suis raté.
Ah non, la réponse est en partie dans la question. Hein.
C'est peut-être pour ça que les journalistes ont fait de gros efforts pour les formater. Si c'est pas, ça peut être une...
C'est le marché qui les intéresse. Hein. Dassault, s'il a acheté le Figaro, c'est pour avoir une position dominante par rapport à vendre son marché. Oui. Bolloré, c'est la même chose.
C'est ce que je soupçonnais. Mais
voilà. Et c'est très clair.
C'est plus clair que ça en 2004 pour les diplomatiques. Je me souviens à peu près parce qu'ils avaient en disant qu'en France, en 2004, il y avait les deux groupes de presse seulement de Lagardère, donc Matra Armement, le groupe Hachette, donc ça c'est Matra, et de côté Dassault, donc le Figaro, l'Espagne, tout un tas de radios, télé, etc., mais surtout le Figaro, donc le Rafale, tous ces avions Dassault, etc., les guerres, et la droite française, et bien ces deux groupes-là, qui avaient par exemple 75% des dictionnaires et 90% des livres scolaires, c'était jamais arrivé à la veille des guerres mondiales, que dans aucune démocratie européenne, autant de concentration médiatique soit dans les mêmes mains. Donc croyez bien qu'effectivement ça les intéresse énormément de vendre l'opinion et faire en sorte qu'on fasse de la chair à canon, qui pourra défendre Bravo. On est encore dans l'opération Sentinelle depuis le 7 janvier. Voilà.
Mais, encore une fois, on n'est pas obligé. On est quand même dans un pays démocratique, c'est ce que j'essaie de dire. Ah si. Ben si, non mais quoi que vous en pensiez. Vous n'avez pas vécu, et moi non plus d'ailleurs, heureusement, sous le joug soviétique, par exemple. Vous ne vivez pas en Chine. Là, vous pourriez dire, là c'est pas démocratique. Ici, c'est démocratique, pas dans le sens que vous croyez, dans le sens où il y a un choix. Je ne suis pas obligé d'écouter Europe 1. Qui m'a mis un pistolet sur la tempe pour acheter le Figaro? Qui me demande de lire ça? Si les gens n'achètent pas, c'est bien la force du consommateur, dans tous les domaines d'ailleurs, pas que dans les médias. Si je n'achète pas, ça n'existe pas, car le marché n'existe plus. Il n'y a pas de complot. On n'est pas en train de fabriquer quelque chose en sous-main, en se disant « ça va marcher, je vais tous les mettre sous mon joug, et puis bon, voilà ». Non, pas du tout. Moi, je n'écoute pas Europe 1, j'écoute pas RTL, et j'achète pas le Figaro.
Hein. Jamais c'est ça qui est implicite. On a fait des journaux qui dénonçaient notamment la Voix du Nord, la mairie socialiste de Lille, la police, l'extrême droite lilloise, et on ne s'est jamais estimé complotiste un instant. On a un journal qui s'appelle La Brique, qui tourne encore aujourd'hui. On pourrait refaire un journal dans Marseille, il n'y a pas long. L'année prochaine, ça ne peut pas arriver. Mais le complotisme est suffisamment important et ancien pour qu'on fasse attention avec des espèces de conspirationnisme, etc.
Bon, en tous les cas, on a le choix.
Mais non, c'est pas la question, on a le choix, vous l'avez dit tout à l'heure. À partir du moment où tous les quotidiens se réfèrent au Monde, qui est le seul journal français qui parle le soir, ensuite tous les hebdos, toutes les télés, toutes les radios se réfèrent aux journaux qui ont été annoncés à ce moment-là dès le matin, du coup, il n'y a pas de pluralité.
Pas toutes. Donc,
il n'y a pas de pluralité.
Mais pas toutes, mais monsieur, pas toutes.
La chose disiez... qui est différente avec la Chine, c'est que moi, je me suis pas retrouvé en camp de redressement, en camp de concentration.
Voilà, c'est ça. Balle
dans la tête,
ouais, mais c'est important quand même, hein. C'est important.
C'est surtout qu'à Sivin, s'il y a eu des milices fascistes, qui ont supporté.
Ça, c'est autre chose. Hein,
c'est... Non, c'est une question des pratiques alternatives.
Mais là, on parle de l'info.
Des pratiques illégales.
Mais on a le choix de tourner le bouton, d'acheter ou de ne pas acheter quelque chose, de croire ou de ne pas croire ce qu'on nous raconte. On a le choix.
Je voulais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, sur comment ça se fait que, ou même à deux personnes, là, comment ça se fait qu'on ne regarde pas, notamment pour Radio Temps, l'audimat. Je ne fais pas l'apologie, là, je ne dis pas du bien de Radio Temps, je n'aime pas forcément Jean-Pierre Alexandre, mais le...
Faut t'avouer, t'as moitié parlé.
Si ce soir, on fait une soirée d'information sur l'information... Et qu'on demande au jeudi en question à Jean-Pierre Alexandre, c'est parce qu'on n'a pas trouvé ni à RMC, ni à Radio Totem, ni dans d'autres endroits de journalistes, des personnes qui semblaient pouvoir nous donner une assez grande vision large, à peu près honnête, c'est pour ça que quand je dis que je n'aime pas forcément, à peu près honnête, etc. Bon. La deuxième chose, sa radio, qui est ce qu'elle est, a permis à certaines associations à un moment donné. Je pense à la Ligue des droits de l'homme, dont Yves vient de dire qu'il ne l'avait pas forcément soutenu à un moment donné, à des organes syndicales, à ATTAC, à sur le planning familial, de venir faire pendant une année des, des moments de discussion, enfin pas de discussion, surtout c'était des présentations de sujets qui leur importaient. Planning familial, l'île des droits de l'homme, attaque, des
organisations syndicales
aussi, Palestine 12, et les réfugiés de Rodez. Pas forcément les gens les plus à droite du département. Eh bien, Radio Temps a permis que ça se passait bien, et ça pourrait se repasser,
et ça pourrait
de donner ce moment de parole. Alors, pas politique. Ah non, je suis à l'église, on ne faisait pas de politique. Là, Israël, on ne faisait pas de politique. Les trucs des réfugiés, on ne faisait pas de politique. Palestine 12, on ne faisait pas de politique. Le planning familial, on ne faisait pas de politique. Ben, évidemment que si. Mais il n'y a pas besoin d'un journaliste politicien pour nous interviewer, nous demander qu'est-ce que vous pensez de Sarkozy ou de Michel Rocard dans la gestion du planning des droits des femmes. Il n'y a pas besoin de ça. Les associations étaient capables de répondre ou de porter sur l'antenne de Radio Temps des propos et des valeurs qui semblaient être pas politiciennes, mais bien assises politiquement avec des valeurs. Bon, pour ça que c'est un clin d'œil quand je dis que je ne l'aime pas, parce que je ne vais pas dire que je l'aime. Évidemment, j'aime pas Radio Temps, je n'arrive pas à l'écouter en voiture. Bon. Mais peu importe. Mais je pense que l'audimat, il est plus aujourd'hui dans la salle avec un journaliste sans carte de Radio Temps, et dans les moments que Radio Temps permet de donner, que forcément dans les « j'ai eu 35 auditeurs de 8h à 8h15, j'en ai eu 75 de 9h à 9h15 », on s'en fout. Ce qui est important, c'est que ces endroits de liberté puissent convenir à plein de gens et donner à ces gens, à nous, le droit à la parole.
Merci.
Alors moi je suis renchéri complètement à ce que tu viens de dire. Moi je crois de plus en plus aux médias alternatifs. Quand je vois l'état des médias institutionnels, je les appelle comme ça, je crois de plus en plus aux médias alternatifs, et je témoigne qu'une radio comme Radio Temps est un espace d'expression. Radio Temps est ce qu'elle est. Tu nous dis que vous ne faites pas de politique, je pense que vous avez raison, je ne rentre pas là-dedans pour le moment. Je dis en tout cas que vous êtes un espace d'expression extrêmement intéressant. Et j'étais quand même choqué tout à l'heure d'entendre dire que la manne de l'État devait être proportionnelle à l'audience, à l'audimat. Qu'est-ce que vous faites d'Arte avec ça? Qu'est-ce que vous faites de France Culture? Qu'est-ce que vous faites de France Musique?
Ben hein.
Qu'est-ce que vous faites de RFI? Qu'est-ce que vous faites de la BBC?
On les vire. On les vire sur le marché.
Certaines parties de la BBC. Mais en aucun cas. Moi, je suis pour l'inventivité et la créativité. Et je le dis, je le répète, je ne crois plus aujourd'hui qu'aux médias alternatifs. Voilà.
Il faut qu'il soit entendu quand même.
Mais il est temps.
Si c'est une petite substance.
Mais monsieur.
Il en faut une quand même. Parce que si vos idées.
Vous habitez où, monsieur? Juste pour savoir. Vous habitez où?
J'habite à côté de Besançon.
Eh ben vous entendez Radio Temps, hein, donc il n'y a pas de problème. C'est ça, chez vous, voilà, vous n'avez pas tourné le bouton, mais ça, c'est vous qui voyez. Non, mais après, c'est un choix. On fait ce qu'on veut.
C'est la raison pour laquelle je vous pose la question de savoir quelle était la substance de Radio Temps. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce que vous êtes, vous. C'est ce que vous diffusez, c'est la philosophie, la substance de
Voilà, bah, vous allez suivre. Et de toute façon, attendez.
Et il faut quand même qu'il y ait quelques auditeurs, sinon, effectivement, la Ligue des droits de l'homme et tous les autres, qu'est-ce que ça peut faire qu'ils viennent s'exprimer chez vous s'il n'y a personne qui écoute?
Mais s'ils n'ont pas les moyens d'être écoutés, ils ne seront pas écoutés, c'est sûr. S'ils n'ont pas les moyens d'améliorer leur...
On va peut-être juste une précision quand même sur l'écoute, d'accord? Soyons clairs, aujourd'hui, là, on est tous dépassés, là, parce que... Enfin, moi, le premier, d'ailleurs, parce que je n'ai pas vécu la révolution numérique. Mais attendez, aujourd'hui, l'écoute, elle est très peu en erdien et elle le sera de moins en moins. Donc, nous, on nous écoute all over the world. Yes, all over the world. You understand? C'est-à-dire qu'à partir... Ben voilà, donc, l'explication. À partir d'Internet, on écoute la radio que l'on veut, où l'on veut, avec notre appli. On a une appli... Vous la prenez sur votre smartphone ou votre tablette. Pareil, vous écoutez la radio que vous voulez, où vous voulez, quand vous voulez. Les podcasts sont de plus en plus à la mode. Et les podcasts nous rapportent beaucoup. Alors là, par contre, nous rapportent beaucoup d'auditeurs. Oui, ça c'est vrai. Parce que les gens n'écoutent plus en continuité à une heure et un jour précis. Et les choses sont en train d'évoluer dans la façon de consommer le média. Et le média alternatif sait se placer dans ce domaine-là, parce qu'il est souvent en pointe. Nous avons un site qui est à peu près bien fait, dans lequel vous retrouverez toutes les émissions que vous voulez découvrir, réécouter à loisir. Voilà. Et en allant sur le site qui est réellement la porte d'entrée du média aujourd'hui, qu'il soit alternatif ou pas d'ailleurs, peu importe, mais on a les mêmes armes là par contre. Sur Internet, on a les mêmes armes que France Inter, on a les mêmes armes qu'Europe 1, etc. Mais c'est vrai que sur le terrain, en RDI, on est limité. Mais vous savez pourquoi on est limité? Pourquoi vous ne pouvez pas nous écouter? Eh bien, c'est le CSA qui l'a décidé. C'est 1 kW, je ne rentrerai pas dans les détails, c'est la diffusion, les antennes, tout est contrôlé par le CSA. Donc vous pouvez dormir tranquille, ne vous inquiétez pas, la liberté d'expression est sous contrôle hein, en France. On veut bien qu'on s'exprime, mais tout est contrôlé. J'ai rempli le même cahier des charges que France Inter, que Europe 1, pour pouvoir émettre. Pareil, j'ai les mêmes contraintes techniques. Sauf qu'on m'a dit, ah oui, mais toi, tu es un média local, donc tu n'auras pas les moyens de culture ou de Radio France, tu n'auras que les moyens que le CSA a décidé en catégorie A. Voilà. Mais si d'aventure, demain, ces médias dits alternatifs étaient plus écoutés, eh bien, forcément, on aurait plus de moyens, évidemment. Et l'oreille que Fleur Pellerin a bien voulu prêter à nos propos récemment, c'est-à-dire cet été, en l'occurrence, nous fait penser que c'est en train d'évoluer quand même si ça n'ira pas aussi vite qu'on le souhaite. Mais voilà. Et après, il y a des différents moyens d'écouter la radio. C'est vrai que dans la voiture, nous, on est... Voilà, moi, je suis encore dans la voiture, c'est vrai. Quand ça coupe, c'est embêtant. Mais si je veux vraiment, je peux. Je vais sur Internet et je vais sur Acrimed, je vais, sur Radio Albigès, sur Radio Larzac. Parce que je tiens à préciser, d'ailleurs, je ne peux pas faire que la pub pour moi, dans l'Aveyron, il y a 3 radios véritablement non commerciales. Hein, qui le sait?
Toi.
Oui, pour moi, d'accord, mais enfin, et les deux autres.
Radio Larzac.
Voilà, Radio Larzac et Radio Sainte-Afrique. Bon, ben, il faut les nommer parce qu'ils font le même travail que nous, dans leur secteur, aussi bien, peut-être mieux, parfois d'ailleurs, il faut rester modeste, parce qu'ils sont là depuis très longtemps, avant nous.
Avec un kilo, voilà.
Et avec un kilo comme nous, ils ont exactement les mêmes contraintes techniques. Alors qu'une radio commerciale, va-t-en savoir pourquoi, à la possibilité d'avoir 10 kilos répartis sur 10 départements. Bon, c'est comme ça. Voilà. C'est la loi, elle est ainsi faite. On essaye de la faire évoluer, mais malheureusement...
Ça limite oui. La puissance ou la répartition?
La puissance. On me limite la puissance. Après, je peux mettre plusieurs antennes si je veux et répartir comme je veux. Avec la RNT, puisqu'on n'est pas au bout là. Le bout du bout, c'est la RNT. D'accord? On a connu donc la TNT, hein, la révolution de TNT. Et maintenant, à l'avenir, c'est la radio numérique terrestre. Alors là, je vous promets que vous allez adorer la radio. Vous avez détesté la radio classique, mais alors la RNT, vous allez adorer. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un écran. Ah, tiens, je ne savais pas qu'à la radio, on faisait de la télé. Personnellement, je n'avais pas choisi ça. Mais oui, on nous imposera un écran. Donc sur votre poste, alors là où ça coince, et c'est pour ça que ça coince aujourd'hui, c'est notamment parce qu'il y a des associations de prévention routière, notamment la Ligue contre la violence routière, etc., qui ne veulent pas pour l'instant de la RNT, parce que les constructeurs de postes d'autoradio veulent mettre un écran dans l'autoradio. Je vous laisse imaginer, bien sûr, le jour où ça débarque, d'accord? Alors ça, c'est pour l'anecdote, c'est-à-dire de la télé dans la voiture. Alors on nous a répondu quand même, on nous a dit, enfin au niveau du ministère, on a dit « Oui, mais ne vous inquiétez pas, parce que de toute façon, bientôt, les voitures, on n'aura pas besoin de les piloter directement. » Ok, très bien, donc je peux regarder effectivement un écran. Ok, mais qu'est-ce que je vais mettre dans l'écran? Moi, radio locale alternative, qu'est-ce que je vais mettre dans cet écran? Moi, ouais, éventuellement, je peux. Mais je crains fort que ça ne rapporte pas assez. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'ARNT vous prépare ce que vous allez détester, un terminal d'ordinateur comme un petit DAB. Vous connaissez donc les... Ben, si, quand vous allez chez votre commerçant, il a un terminal avec sa banque, vous achetez, vous glissez votre carte. Donc, le fin du fin, ce que veulent les autorités aujourd'hui, je vous le dis, c'est un scoop hein, quasiment, parce que c'est écrit nulle part pour l'instant, mais c'est que en fait, on puisse acheter le produit dont on est en train de parler à la radio au moment donné, avec un terminal qui sera installé directement. Voilà
génial.
Ce que nous... Voilà. Je ne vous le fais pas dire, monsieur, c'est quand même génial. Voilà. C'est-à-dire que la musique que je vais passer, il va y avoir la pochette du disque, il va y avoir le nom, et je peux tout de suite le télécharger en rentrant mon code et l'acheter, bien sûr, parce que c'est bon. Et en roulant... Bon. En roulant sans volant, puisque... Bon, enfin, bref, tout ça pour dire que qu'est-ce qu'on va faire, nous? La radio commerciale est déjà bien armée, parce qu'il n'y a pas de problème, tout est prêt. Par contre, les radios alternatives, qu'est-ce qu'on va passer, nous? On ne veut pas passer de pub. Eh bien voilà, on va nous contraindre. Et non seulement ça, mais le fin du fin, aujourd'hui, moi, j'émets en propre. C'est-à-dire que j'ai mon propre matériel d'émission. C'est à moi. C'est sur mon site. Or, avec la RNT, on va nous faire migrer vers des groupements de diffusion. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on s'associe avec d'autres radios, je vous laisse imaginer lesquelles, puisque je vous l'ai dit, 1%, 99%. On va donc devoir s'entendre avec ceux avec lesquels on n'a pas d'affinité, surtout philosophique, et on va devoir s'entendre pour diffuser la RNT, et en passant donc un abonnement. On veut nous faire payer un abonnement, alors qu'aujourd'hui, j'ai investi une bonne fois pour toutes, je renouvelle tous les 5 ans mon matériel, mais je n'ai pas d'abonnement, c'est moi qui fais ma maintenance et tout ça. Et là, on va nous faire passer par des opérateurs privés, qui la plupart, c'est assez marrant, il y en a un qui s'appelle Towercast, il est installé à la Primob, hein, et c'est une filiale d'énergie. Donc, énergie, Europe 1, c'est eux qui vont donc, puisque TDF a été démantelé, hein, je vous le rappelle, et n'est réservé maintenant que pour le service public. Donc ça veut dire quoi? Que je vais devoir passer par les fourches codines du commercial. Mais qu'à la fin du fin, qu'est-ce qu'on désire? Nous éliminer, tout simplement. Parce que le fameux fonds de soutien à l'expression radiophonique est contesté, il faut le savoir, chaque année par ces pauvres du club de radio. Ils ont monté un lobbying, hein, c'est un groupe, hein, un petit peu informel, mais quand même on sait qui y a à l'intérieur, qui va au bureau du ministre tous les mois et qui dit, écoutez, regardez, vous nous ponctionnez 1% sur les recettes publicitaires de l'année, du public et du privé, mais surtout du privé, puisque c'est le privé qui fait le plus de recettes publicitaires, et vous les filez à ces radios qui ne savent même pas faire de la radio, qui ne couvrent même pas la France, c'est une honte, on ne veut plus donner ça. Et c'est Énergie, Europe 1, RTL, ils veulent qu'on coupe le fameux FSER. Si on coupe le FSER et qu'en plus on nous demande de migrer et de payer maintenant pour diffuser, ce qui sera le cas par mois, bon, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui tiendront le coup très longtemps. Donc s'il n'y a pas une révolution citoyenne, mesdames, messieurs, s'il n'y a pas un changement de paradigme, hein, comme à me le dire certains, bon, dans ce domaine-là, c'est possible aussi. Je crains fort que vous vous retrouviez avec des médias qui seront farcis de publicité toute la journée, que vous n'ayez plus vraiment le choix, qu'on n'ait plus vraiment le choix de rien. Parce que même le service public est en train, de toute façon, de changer complètement. D'accord ? Et quand Yves Garrigue parle de France 3, je suis d'accord avec lui. Moi, France 3, je voulais y travailler. C'était la plus belle chaîne. Moi, quand j'ai commencé mes études, je me disais, c'est génial. Voilà, enfin, une chaîne nationale qui va parler des régions. Enfin, il y avait une ligne éditoriale géniale, quoi. Mais quand on voit ce qu'on en a fait, et quand on voit la pauvreté aujourd'hui du 7 minutes d'info, c'est génial. Comment faire pour faire entrer 5 sujets en 7 minutes ? Ben, vous regardez tous les soirs, vous verrez. Et donc forcément, hein, tout ça a ses limites. Mais c'est vers ça qu'on va tendre de plus en plus, acheté par le marché, parce que si c'est le marché qui finit par gagner, l'alternatif, il n'y en aura pas beaucoup, quoi. Ça restera vraiment... voilà.
Par Internet.
Mais comme le législateur l'a prévu, si vous voulez, pour Internet, pas d'aide. Voilà. Vous migrez sur Internet, pas d'aide. Non. Peut-être comme vous voulez, mais...
Si les associations performent.
C'est ça.
Ah ben, VH et d'autres.
Non, mais c'est pour ça que ce que propose la coordination permanente des médias libres, c'est vraiment que tous les médias qui se sentent concernés par ce futur un petit peu noir pour nous, en tous les cas, se regroupent, essayent de se défendre immédiatement avant que... On a de la chance parce que la RNT, finalement, enfin, dans ce cafouillage, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il y a cafouillage, mais c'est une chance pour nous qu'il y ait cafouillage pour l'instant. C'est vrai que tout autour, hein, ça y est, c'est parti. Hein, la Suisse, la Grande-Bretagne, je crois qu'aujourd'hui, la RNT, ça correspond à 70% du taux d'écoute. Hein. Vous voyez qu'ils ont été très vite. Hein. Nous, on a de la chance encore qu'ils réfléchissent.
Mais je voudrais peut-être lever une ambiguïté sur la carte de presse. Moi, il m'a fallu attendre 20 ans et être délégué adjoint à la carte de presse pour me rendre compte de la situation. La carte de presse, c'est la reconnaissance d'une activité. Vous travaillez pour un média et vous tirez l'essentiel de vos revenus de ces activités auprès des médias. Ce n'est en aucun cas une garantie de qualité, d'éthique ou de quoi que ce soit. En aucun cas. Hein ? Ce n'est pas une garantie de compétence. Voilà. La carte de presse de Gala et celle de la vie catholique ou de la croix, c'est exactement la même. Donc, il ne faut pas fantasmer plus que de raison sur la carte de presse. Ceci étant, moi j'ai été quand même syndicaliste pendant longtemps, et pour nous la carte de presse c'était la garantie, c'est pour ça qu'il ne faut pas en parler non plus à la légère, c'était la garantie d'un minimum de salaire. Hein ? Et c'est pour ça que les patrons de presse se refusent à donner la carte de presse à leurs stagiaires, qu'ils font mariner des années et des années avant. Normalement, chacun peut demander la carte de presse de lui-même, sans passer par son employeur, s'il estime remplir les conditions. Mais si vous travaillez dans un quotidien et qui ne vous donne pas la carte de presse et que vous la demandiez de vous-même, l'affaire est vite réglée, on vous congédie le lendemain. Quoi. Donc, vous voyez l'ambiguïté. Carte de presse, c'est important parce que ça donne une garantie de conditions de travail, mais sur le plan de la compétence, ça ne veut rien dire. Pour ce qui est des journalistes et des médias, ils sont pour moi exactement à l'image de la société. Ce n'est pas les médias qui influencent la société ou la société qui influence les médias. Pour moi, je vous donne mon opinion. Ils sont exactement à l'image de l'enseignement, à l'image de l'industrie, à l'image de... C'est-à-dire assez merdique, hein, un état assez... critiquer les médias, oui, il le faut. Et je crois que les journalistes ont besoin de cette critique de l'extérieur et qu'elle est nécessaire et qu'elle est vraiment trop faible. Mais parler des médias comme on entend parler des politiques, des fois, tous pourris, à mon avis, ça serait bien dangereux, parce qu'il faudrait quand même aussi voir l'énorme travail que font beaucoup de journalistes pour la démocratie, le nombre d'affaires qui ne sortiraient pas, le nombre de choses qui resteraient dans l'ombre. Imaginez qu'il n'y ait pas de médias demain. Alors voilà, critiquer les médias, oui, mais les condamner avec trop de sévérité, je vous laisse le juge. J'espère que je n'ai pas jeté un front.
Ça ressemble à une conclusion.
Ils ne se condamnent pas eux-mêmes en n'apportant plus aucune information, d'ailleurs.
Pardon ?
Ils se condamnent eux-mêmes en n'apportant plus d'infos, oui, c'est vrai, oui, tout à fait. Ça ferme un petit peu la porte. Hein,
oui, je crois qu'il faut être maso à l'heure actuelle. Moi, je ne vais pas le dire, non.
si, il faut le dire. Allez, c'est la fin.
Bah, je comprends que les jeunes n'achètent pas les quotidiens.
Ah.
Franchement, si vous mettez les avis d'obsèques sur le net de même, les quotidiens, ils plongent. Et pourtant, je tiens à dire qu'il y a d'excellents journalistes aussi sur la place Véronèse dans les quotidiens. C'est pas... Vous voyez, c'est... À quel point il faut se méfier de ce qu'on dit, quoi. Hein. Mais globalement, ça ne vole pas haut, quoi. Nous ne volions pas haut à mon époque, mais alors, ça ne s'est pas arrangé.
Le titre de la soirée, c'était l'information était une marchandise.
Deviens.
Juste un petit rappel, là. La patronne qui vient d'être nommée à France Télévision
vient de
mon groupe, c'est la patronne de la communication à Orange. On voit, on peut penser, en rapport à ce que tu as dit sur les voitures, les écrans, les choses comme ça,
le mode
de communication, comment on va orienter un petit peu la communication et la manière de voir les rapports entre les gens. Marchand, marchand, marchand. Donc, la communication, l'information n'est pas une marchandise. Dans la radio, il n'y a pas que, dans la région, il n'y a pas que de l'information. Quand on passe un bon morceau de musique, il y en a eu plein, c'est un délice, la radio. Il m'informe de quoi ? De la musique. Bon. Donc, c'est pas de l'information. Donc, il n'y a pas que de l'information dans la radio ni dans les médias. Il y a du plaisir, il y a du jeu, il y a plein d'autres choses. Mais quand on voit donc des gens arriver vraiment du milieu de du fric à France Télévision, on peut se faire du souci.
Et à Radio France aussi. Mathieu Gallet est un exemple. il faut juste regarder, c'est pour ça que je vous disais au début, regarder d'où viennent les gens aussi qui dirigent ces médias, parce que Mathieu Gallet, par exemple, vient de l'INA, et ce qu'il a fait à l'INA, il va le faire à Radio France. Voilà. Il a réussi à l'INA à casser le bel outil et à en faire quelque chose de commercial. Maintenant, la moindre petite archive, vous la payez je ne sais pas combien. Et il a surtout viré quelques centaines de personnes. Hein, il y en avait trop. Hein. Voilà, et on ne s'occupe plus vraiment de l'archivage de fond. Hein, on s'occupe justement de ce que demande qui paye les chaînes commerciales. Donc finalement, l'INA, aujourd'hui, conserve surtout la mémoire des jeux télévisés. D'ailleurs, vous voyez en boucle ces émissions qui ne sont pas trop chères et avec lesquelles on se repaît des émissions de la télé d'il y a 20, 30 ans et on nous les rediffuse. Et c'est toujours des jeux à la con et c'est toujours le même journal télévisé, etc. Ben oui, parce que c'est ce qui rapporte le plus. Voilà. Le reste, on ne l'archive plus parce que c'est terminé. Mathieu Gallet va faire pareil. D'ailleurs, il a dit... dans sa dernière, enfin, c'est un document interne de Radio France, mais il a dit clairement, France Culture, France Musique, je pense que ça peut passer directement sur le net. Ça nous fera 360 millions d'économies directement. Voilà. Il a coupé grandes ondes, petites ondes. Hein. C'est lui qui a coupé. Terminé. Il n'y a plus de France Inter sur les grandes ondes. Il y a des endroits, il faut savoir, en France, monsieur, vous le disiez à juste titre, qui aimerait bien écouter France Inter, notamment les sports, hein, puisque pendant longtemps, il y a eu le truc des sports, voilà, le décrochage. Allez, ça y est, c'est fini. Voilà. Ben, à la fin, il veut mettre tout Radio France sur Internet. Hein. En gros, c'est son projet. Donc si vous n'écoutez pas Internet, vous n'avez pas tué pas là, voilà, à écouter les programmes de la radio, ça coûte trop cher, hein, la diffusion en hertzien. Voilà. Donc on est bien dans cette logique-là, marchande totale. Mais il y a de quoi, encore une fois, espérer, et il y a de quoi faire, parce que rien n'est jamais inéluctable, surtout en France. Hein.
Et pour s'informer, je dis en question tous les 15 jours.
Tous les mois.
Il faut que le cœur tienne.
Dans la série, soyons concrets, le syndicat auquel je continue à appartenir, bien qu'à la retraite, apportera samedi prochain son soutien à un journaliste de France 3 qui s'appelle François Ollier, parce que ce bougre-là, qui est un vieux de la vieille, a refusé il y a quelques semaines qu'un jeune CDD soit envoyé tout seul sur un reportage, une manifestation dans le Tarn-et-Garonne. François a dit, on n'en voit jamais un petit peu tout seul, a fortiori sur une manifestation, parce que le rédacteur est là pour le protéger. Moi, j'ai vécu ça 50 fois. Le pot de géranium qui arrive, et même le type, il est derrière sa caméra, il ne voit rien arriver. C'est une question de sécurité. La hiérarchie a maintenu son refus qu'il parte d'eux. Et François, de lui-même, a été sur le reportage avec ce jeune caméraman CDD. Et il va être sanctionné. On parle de le sanctionner pour ça. Voilà. Ça vous en dit long sur l'état, les conditions de travail, y compris dans le service public, où c'est de plus en plus vite, de plus en plus mal, avec de moins en moins de moyens. Quand j'ai commencé à faire de la télévision, nous étions 4 sur les reportages. Rapidement, on est passé à 3. Maintenant, c'est à 2, sauf cas extrême. Cas exceptionnel. Et maintenant, c'est des tentatives de faire partir les gens tout seuls, y compris sur des manifestations, ce qui est très dangereux. Moi, j'ai sauvé une fois mon caméraman en le tirant, une moto allait lui tomber dessus. Voilà, c'est basique. Mais voilà où nous en sommes. Alors, ben, samedi, on va apporter notre soutien à François Ollier. C'est du concret, ça.
Où ça ?
À Toulouse. Tout ça. Non, c'est une réunion interne. Hein, à France 3, on se retrouve, on voit ce qu'on peut faire. Oui, il ne risque pas sa carrière, il ne risque pas d'être viré. Mais c'est quand même désagréable de prendre un avertissement quand on a fait son job.
Il
n'y
a pas
de pétition.
Enfin,
oui, on va en parler. On va en parler, c'est le but de 5 minutes. Je peux bien dire qu'à mon époque, excusez-moi de dire de mon temps, mais c'était inconcevable une chose pareille. Le plus enfoiré des Anachem n'aurait pas fait ça. Et à l'heure actuelle, des choses qui étaient inconcevables de mon temps, que les journalistes les plus enfoirés n'auraient pas faites, sont quotidiennement commises. Piquer la prose de quelqu'un sans le citer, démarquer son reportage, le couper sans lui en parler, ça se fait tous les jours. Les règles d'éthique ont disparu. Moi j'ai même vu quelqu'un, une fille, aller interviewer la femme de l'assassin. Madame, votre mari vient de tuer. Qu'est-ce que ça vous fait?
Bon, arrêt sur image, qu'est-ce que ça veut dire?
C'est sur Internet maintenant.
C'est uniquement d'ailleurs.
Voilà. C'est sur Internet. Bah, toutes les émissions, Mermet, on l'a aussi arrêté, hein, ils l'ont eu à force. Bon, au moins il fallait aussi qu'ils prennent un peu sa retraite, hein, c'est normal aussi. Mais n'empêche qu'ils n'ont pas remplacé, il y avait des gens qui étaient capables dans son équipe, bien sûr, qui étaient capables de reprendre. Mais là, non, trop c'était trop quand même. Hein. Une heure par jour sur le service public, d'entendre un petit peu de bout de vérité, de commencement de quelque chose pour faire réfléchir les gens, non. Ben, ça faisait trop déjà. Déjà, c'était beaucoup trop. Donc, on l'a arrêté, mais c'est ainsi. Voilà, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, encore une fois, moi, je pense que c'est nous, c'est-à-dire les citoyens qui pourront à un moment donné reprendre la parole parce qu'on l'a pris à un moment donné et on pourra la reprendre, c'est tout.
C'est pas ce monsieur qui fait son émission sur Internet maintenant, on peut...
Si, c'est ça, chez Neerman.
Donner 5 euros pour que ça marche.
Ouais.
Là-bas, si j'y suis.
Là-bas, si j'y suis, ouais. Mmh. Mmh, bien sûr.
Pour s'informer, il faut passer par Internet. Non
oui.
Vous disiez là, à l'instant, que c'était aux citoyens de reprendre la main. Je voudrais savoir ce que font les citoyens actuellement sur, par exemple, l'histoire de TAFTA, qui met en place un système qui est uniquement contrôlé par le grand marché international et par les lois du commerce.
Il y a des manifestations, il y a des pétitions, il y a un certain nombre d'attaques notamment qui est très en pointe, qui a été en pointe dès le départ.
Quelle est la portée?
Ah non, mais la portée, elle est quasi nulle dans les médias dominants. Excusez-moi, je suis obligé de dire dominants puisque c'est eux qui n'en parlent pas. Donc voilà, pour les différencier, je suis obligé de dire dominants. En revanche, si vous écoutez Radio Larzac, Radio Albigès, Radio Sainte-Afrique, si vous lisez Acrimed,
si vous venez au jeudi en question,
si vous venez au jeudi, mais exactement, c'est un lieu d'information.
C'était affiché à guette à la salle des fêtes.
Mais bien sûr, Génard qui est un spécialiste. Mais voilà. Donc non, il ne faut pas dire ça. Il y a encore, et ça je suis d'accord, encore une fois, on a la presse qu'on mérite. On a les infos qu'on mérite et on a la société.
Moi, je parle de la réactivité.
Ah, la réactivité, elle est là. Hein, on peut pas. Et qu'est-ce que vous voulez faire après, vous jeter à l'occasion d'une des réunions, ce qu'on fait certains dans la gueule du loup. Mais bon, il y a des tels services d'ordre aujourd'hui que même un journaliste, même Élise Lucet, même en faisant comme ça, elle passera pas. Hein.
Elle a une carrière pathétique, on le sait.
Pathétique.
Pathétique.
Parce qu'elle a osé, oh mon Dieu, poser une question qui fait.
Une citoyenne d'ailleurs.
Donc vous voyez, les journalistes veulent faire leur travail d'un côté, eh bien ils vont être mis devant les juges, ils vont être blâmés, ils vont. Et puis d'un autre côté, les citoyens disent oui, mais vous faites pas votre boulot. Bah ouais, mais enfin, vu les risques qu'il y a,
Et les syndicalistes, parce que la pénalisation de la fonction syndicale.
Bien sûr, les syndicalistes, bien sûr.
Galopante.
Évidemment, bien sûr. Donc voilà, mais vous avez raison. Et alors, l'apathie, ben WhatsApp. Lisez donc notre ami Démurgé. Vous comprendrez comment les écrans colonisent une bonne partie de votre temps de réflexion. Vous savez, le fameux temps dévolu à Coca-Cola. Il l'a dit en plus. En plus, aujourd'hui, il se cache même plus. Voilà, on le fait. Ben, bête celui qui continue à aller dans ce sens-là. Et à donner voilà.
Je voudrais juste dire quelque chose. À une certaine époque, dans les années 80, par là, dans certains établissements scolaires, on allait essayer d'initier un truc qui s'appelait une critique, disons, de tout ce qui était pub. Hein. Ça s'appelait le jeune téléspectateur actif. Ça donnait des moyens aux gens de savoir lire des images, de les comprendre, de les analyser éventuellement et d'augmenter un petit peu le champ de vision sur autre chose que la publicité. Où sont actuellement les moyens que l'on met dans cette formation?
Et on ne va pas se tirer une balle dans le pied quand même. Je veux dire que les gars, ils ne vont pas passer
sur la mission. Mais c'est
la question quand même. Je pense qu'on a de toute façon dans l'enseignement le même formatage qu'on a dans nos écoles de journalisme.
C'est ce que j'essayais de vous dire tout à l'heure.
C'est ça, c'est-à-dire que les têtes qui dépassent...
Moi, je suis impitoyable avec mon métier, et je l'étais quand je l'exerçais. Mais si vous parlez d'enseignement, vous allez voir que je suis aussi impitoyable et d'agriculture aussi impitoyable. Pour ce qui est de l'agriculture, j'ai donné, croyez-moi. Voilà. Je pense que voilà. On peut se renvoyer là-bas, on est dos à dos, hein. C'est la société qui va mal, et puis voilà.
C'est quand même la refonte des programmes dans l'éducation, elle est quand même pensée pour qu'effectivement l'esprit critique y en ait le moins. Ouais. Hein, parce que bon, y a quand même trop d'enseignants qui ont permis à des élèves de pouvoir effectivement voir la pub de façon un petit peu différente, de voir l'information un peu différente. Donc là, il faut recadrer tout ça.
Mais je vais même vous. C'est encore mieux aujourd'hui, c'est-à-dire que l'entrisme, ce qu'on appelle l'entrisme publicitaire, se cachent derrière des très très bons sentiments tels que l'environnement. Hein. Donc vous savez que la navigatrice Maud Fontenoy est en train, a vendu d'ailleurs quasiment, hein, puisque c'est fait, a vendu son kit de développement environnemental aux écoles. Or, il est bien stipulé, et vous verriez quand même, allez sur le site de la Fondation de Maud Fontenoy, vous allez voir la liste des sponsors. C'est assez impressionnant, hein. Alors, si ça, c'est pas de la publicité...
Elle est conseillère environnement chez les Républicains.
Là, par contre, je ne comprends pas...
Ouais. Elle est conseillère environnement chez les Républicains.
Oui, mais ça fait rire, quand même. C'est un gag. Après, je vais essayer d'ironer, là. C'est un gag. Bon, Maud Fontenoy, voilà, bon. Et donc, ça, voilà, c'est... Oui. C'est inquiétant.
Et c'est le service public qui lui achète son kit.
Et oui, puisque c'est le ministère. Elle a traité directement avec le ministère de l'Éducation. Et il y a une pétition, par contre. Alors vous demandez. Il y a une pétition qui circule, qui a d'ailleurs recueilli. C'est La Décroissance, hein, qu'il a lancé, le journal La Décroissance. Il y a déjà plus de 14 000 signatures, 14 500 ou quelque chose comme ça. Et donc, oui, c'est important, je pense, pour les enfants. Enfin, au moins les préserver de ça à l'école. Hein, vous savez, quand ils voulaient installer aussi tous les distributeurs, hein, de friandises, là, les Mars, les machins, les trucs. Mais quand vous les avez sous la tronche pendant 4 ans de suite, hein, ben non, ils n'ont pas abandonné, mais quand même, aujourd'hui, c'est interdit.
Oui.
Bon, alors... Pardon.
Avec TAFTA, ça va changer.
Alors TAFTA permettra sûrement d'attaquer ce genre de décision, bien sûr, de ce genre de loi, et d'attaquer sans avoir besoin, sans être élu ni représenter aucun État. Hein. C'est des privés qui vont attaquer un État en disant wow, vous n'avez pas le droit de faire ça. Mais bien sûr. Mais finalement, ça n'a pas l'air. Non, je ne sais pas ça. Et regardez le dernier sondage, enfin je ne sais pas s'il est vrai, parce que là on va peut-être rentrer dans des trucs un peu de science-fiction. Hein. Mais apparemment, ce qu'a dit Macron à propos. Donc des fonctionnaires, hein, on pourrait peut-être changer carrément le statut. Peut-être qu'on peut même se passer complètement de fonctionnaire. Hein. Peut-être que d'ailleurs on peut se passer de lui-même, mais il n'a pas été jusque-là. Mais en tous les cas, ben oui, puisqu'il est fonctionnaire, je crois, pendant un certain temps. Non, mais là, en fonction de ministre, c'est un haut fonctionnaire, hein, en fait. Donc, en fait, aujourd'hui, dernier sondage en date, 70% des Français seraient d'accord avec ça. Et alors là, je ne sais pas. Donc il y a 7, normalement dans cette salle, il y a 7 personnes qui sont d'accord, 7 sur 10 qui sont d'accord avec ce qu'a dit Macron. Voilà. Je sais pas.
Ça fait plus que ça. Il y en a 35 dans cette salle. Il y en a 35, donc il y a à peu près 50.
Non mais...
Il y en a 35.
Vous voyez ? Donc,
oui.
Sur ce sujet-là, il ne vous est pas venu à l'idée que ça pourrait être une information fabriquée, celle-là ? Parce qu'il faudra quand même aussi sortir au très bon moment. Pour éviter de parler effectivement de la baisse des dotations aux collectivités. Et donc, on n'a pas parlé de la manifestation de 36 000 maires, on n'a parlé que de ça.
Ah.
Sur des propos qu'il bah, aurait dit,
parce
qu'il
bah, avait écrit.
Donc, est-ce que ce n'est pas une information vraiment fabriquée ?
Fabriquée, non, sûrement pas. C'est-à-dire qu'il l'a bien dit, et je pense que le sondage est en partie vrai. Mais attention, je ne sais pas comment il a été administré, ni exactement ce qu'ont répondu les gens dans leur ensemble. Donc là, il y a une petite manipulation. Mais quand même, il l'a dit. Voilà, tout à fait. Mais par contre, vous avez raison. Voilà, eh bien voilà un citoyen avisé, monsieur, bravo, on peut l'applaudir. Moi, je l'applaudis parce que il a dit bien, non mais... Voilà, oui, ça c'est un contre-feu. C'est... Non mais, bien sûr que c'est un contre-feu. Ben voilà, il y a une bataille. Encore une fois, c'est pas l'évangile le journal. C'est pas l'évangile. Tout le monde se mettait devant. Oui, mais je dis ça parce que à l'époque où il y avait qu'une chaîne de télé ou qu'une chaîne de radio, mais tout le monde était derrière. On tournait, c'était vrai. Vu à la télé. Vous voyez le truc, hein, et entendu à la télé.
C'était peut-être plus vrai que maintenant. Il y en a
peut-être
beaucoup.
À l'époque, hein, ils prenaient moins de risques. Ça, c'est sûr.
Je ne voudrais pas que ce monsieur croit que les mouvements d'opinion et les réactions de lecteurs ou d'auditeurs sont vaines et restent lettres mortes.
Oui.
Le dernier exemple que je pourrais prendre, c'est l'affaire de Charlie Hebdo et de Koulibaly, je ne sais plus comment il s'appelait,
où
il y a eu quand même des réactions violentes, des critiques violentes, montrant à quel point BFM TV, notamment, et tous les médias, finalement, s'étaient conduits d'une manière irresponsable, en faisant prendre des risques aux otages. Et ça a provoqué des débats. Enfin, mon syndicat vertement poser le débat aussi. Je veux dire, ça c'est pas inutile. Hein.
Ouais,
on
ne veut
surtout pas qu'on soit fataliste.
Moi, je veux pas être comme vous, Angélique, vis-à-vis de ça, parce que je me dis que dans les réactions de Charlie, il y avait peut-être des gens qui avaient intérêt à ce qu'on noie le poisson avec cette espèce d'aura qu'on a donnée à ce mouvement-là. pour que justement on puisse être récupéré. La meilleure preuve, c'est que Charlie actuellement a complètement changé de direction.
Non, non, moi je vous parle de la couverture médiatique des prises d'otages. Oui. Les journalistes, les journalistes étaient
en tête au défilé de Charlie.
Les journalistes,
non, c'était pas de ça que parlait de la prise d'otage dans le commerce,
le cachet,
voilà, de la porte de Saint-Germain.
Les journalistes étaient des journalistes et avaient les moyens de dire non. Un journaliste, c'est quelqu'un qui dit non. Moi, je me souviens avoir couvert un fait divers, c'était pour France Inter à l'époque, je me suis refusé pendant toute une nuit de dire qu'il n'y avait pas de rescapé dans le train qui avait déraillé, parce que je pensais aux familles qui... j'ai dit non, tant qu'on n'est pas sûr qu'il n'y a pas de rescapé, je ne le dirai pas, voilà. Et puis il y a des gens qui m'ont dit, on t'écoutait de Grenoble, on avait des êtres chers dans le train, et, vous avez une responsabilité énorme, surtout quand vous intervenez comme ça en live, immédiatement, Et c'est d'ailleurs un des problèmes des médias, c'est cette évolution des technologies qui est fait comme que c'est l'immédiateté.
Enfin, quand même, Yves, toute la rédaction de BFM TV a poussé des hauts cris en disant et la liberté d'expression. Ils l'ont renversé quand même.
C'est quoi,
attention.
La liberté d'expression?
Ah non, mais attention. Non, mais moi je te le dis. Et ITL, ils ont fait pareil. Ils ont dit mais qu'est-ce que c'est que ça? On n'a pas le droit. Ah bon, on nous empêche, c'est de la censure?
Je suis pour un encadrement de l'information, à minima, bien entendu. C'est... Que par exemple, on ne puisse pas annoncer un crash d'avion dans un délai donné pour que les gens qui sont à l'aéroport.
Moi je suis d'accord.
Moi, ça ne me paraîtrait pas du
bien
tout
sûr,
être attentatoire à la liberté d'information. Une fois, c'est attentatoire de retarder l'info de 3 heures, de 4 heures, parce qu'il y a des enjeux humains.
L'idéologie libertaire, liberticide, c'est ça, c'est de dire, de toute façon, non, on ne peut rien interdire. Il n'y a rien à interdire. On peut tout faire, tout est possible. Voilà, c'est la nouvelle génération, hein, c'est comme ça, c'est tout est possible. Sinon... Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais on n'avait pas tous ces moyens technologiques pour aller si loin, quoi. Et finalement, là, ça fait.
Il faut voir que les journalistes sont aussi les témoins de la douleur humaine et que c'est quelquefois insupportable. Moi, j'ai une consoeur qui ne s'est jamais remise de la ZDF. Déprime, elle n'est pas sortie.
Ben oui.
Voilà. Et après, on remplit des émissions spéciales avec des experts pendant des heures qui disent on sait rien.
Ouais. Voilà. Ben oui, c'est ça. Parce que...
Donc, c'est ce que je veux.
Oui.
C'est ce qui me frappe toujours, c'est tout le monde parle, il faut descendre notre consommation d'énergie, et tout le monde mise sur Internet. Est-ce que vous avez une petite idée énorme énergie que ça coûte de faire tic 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 Google machin truc un bloc? C'est la consommation d'une maison de deux familles pour une journée, pour une demande sur Google.
C'est vrai.
Et tous ces clouds, c'est pas un cloud, c'est un énorme hangar qu'il faut tout le temps
refroidir
avec des énormes énergies.
C'est pour ça que Google a décidé d'installer son cloud, entre autres, en Finlande ou en Norvège.
Voilà, ça refroidit plus vite.
De la clôture de la pierre.
Enfin, bientôt, ils vont avoir.
Oui.
Pour continuer sur l'info, selon des infos que j'ai chopées dans la presse écrite, je ne sais plus laquelle, de nos jours, la circulation des octets dans les fils cause une consommation d'énergie qui dépasse le transport aérien mondial. Donc on ne sait pas trop en fait combien ça fait le transport aérien mondial en termes de kilojoules ou je ne sais pas quoi, mais on se dit que ça doit être gros, très gros. Et là, en fait, pour faire circuler les octets dans les fils, ben, ça dépasse.
C'est vrai.
On se dit là quand même. Quoi.
Mais l'idéologie dominante dit que la technoscience nous sauvera de tout ça et trouvera de toute façon un moyen de produire encore plus d'électricité. Ah ben moi, c'est ce que m'a dit dernièrement un journaliste scientifique qui, je pense...
Est-ce qu'il avait des billets techniques?
Non, oui, il avait des billets techniques en disant, ben oui, tu vas voir, il va y avoir dans le Sahara, on va mettre un tas de cellules photovoltaïques.
Oui, mais il n'y a personne pour les consommer là-bas, alors donc il faudra les transporter, on en perdra 80% avant que ça...
Ah mais moi, alors là, après...
Donc,
c'est pas moi qui...
Je propose un débat des jeudis en question. Donc, est-ce que la société n'est pas trop technologique pour le commun des mortels, par exemple?
Oui, surtout quand tu finis par les mortels.
Oui. Pour moi, c'est...
Bon. Pas d'autres interventions. On conclut là-dessus.
Voilà. Provisoirement.
Oui. Ah oui, j'oubliais le chapeau. Je l'avais sous la main, mais j'oubliais.